La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis le pasteur Laurent Lenoir de l'église Espoir et Vie de la ville de Groyer dans le Tarn. Je vous propose un texte d'introduction dans les Saintes Écritures, la Bible et plus précisément le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Il est écrit « Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. C'est le don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. » Je voudrais donc vous parler, en effet, de la grâce. J'ai donné un titre à ce message, il s'intitule ainsi « L'étonnante grâce ». Voyez-vous, l'apôtre Paul, ici, dans le contexte, est en train de rappeler à ses auditeurs, finalement, bien qu'il écrit cette lettre, mais ils vont la lire, ils vont l'écouter dans cette église de la ville d'Éphèse, et il leur rappelle ce qu'ils étaient autrefois. Et il va dire, vous étiez, on va y revenir dans quelques instants, il dit à ses croyants, vous étiez par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et donc, il va mettre en évidence ce passé. Il leur dit, mais n'oubliez pas ce que vous étiez. Et, chers auditeurs, ce que les Éphésiens étaient dans le passé, il faut quand même le dire. Il y a malheureusement encore trop de personnes jeunes et plus âgées qui sont non pas dans un présent qui va finalement marquer une fin avec le passé. Comme l'apôtre Paul le souligne ici pour cette église constituée d'hommes et de femmes, des jeunes et moins jeunes, donc de la ville d'Éphèse. Il dit « autrefois ». Et il va lui aussi se mettre dans cette réalité d'autrefois, avec les autres, finalement, apôtres, croyants des autres villes de l'époque. Et il dit « nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant finalement la volonté de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais il y a ce « mais », cette conjonction de coordination, toujours dans Éphésiens chapitre 2. Et au verset 4, il dit « mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie ou à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Vous voyez, c'est noté ici, c'est noté dans le verset que j'ai lu en introduction de ce chapitre 2 tout à l'heure, et il est encore question, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est un don, on y revient, c'est très important, c'est un don de Dieu, si vous préférez, c'est un cadeau, littéralement c'est cela, c'est un cadeau de Dieu. La question que je vous pose est simple. Avez-vous déjà reçu un cadeau si grand qu'il vous a mis mal à l'aise? Un cadeau que vous ne pouviez absolument pas payer. C'est un cadeau de toute manière. Mais que vous-même, si vous aviez voulu vous l'offrir, vous n'auriez pas pu. Et que, de toute évidence, ce cadeau qui vous est offert, hors de prix, qui vous met peut-être mal à l'aise, vous dites intérieurement, mais pourquoi mon proche, pourquoi mon ami m'offre-t-il donc un tel cadeau d'une telle valeur? Je ne le mérite pas. D'autant plus, vous pourriez rajouter, dire que parfois j'ai pas été aussi sympa que cela à son égard, voire même je lui ai mal parlé plusieurs fois, voire même je n'ai pas voulu l'écouter. Bref, la liste est longue de tout ce qui peut être négatif dans le domaine relationnel, avec un proche, avec un ami qui vous offre, j'insiste, ce cadeau, eh bien, d'une grande valeur, et là, vous êtes mal à l'aise, vous dites, effectivement, je ne le méritais pas. Eh bien, on y revient. C'est ce que les Saintes Écritures, la Bible d'une manière générale, hein, mais là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, c'est ce que la Bible appelle la grâce. La grâce. Pourquoi la grâce, puisque c'est là le titre de mon message, pourquoi la grâce est-elle étonnante? Tout simplement parce que elle va à l'encontre de toute logique humaine de mérite. Déjà, le mot grâce, littéralement, signifie « c'est une faveur imméritée ». Je ne la mérite pas. Donc, la grâce, on peut parler de la grâce présidentielle. Ici, on parle de la grâce de Dieu. Je ne mérite pas ce qui m'est accordé. Ça va à l'encontre de toute ma logique humaine, d'autant plus de mérite. Parce que il faut quand même ne pas se mentir à soi-même. Vous le comprenez très bien. On est ainsi fait. On a envie toujours de mériter ce que l'on va obtenir. On est d'accord? Alors, sur certains points, il faut faire beaucoup d'efforts, bien entendu. Pour toucher un salaire, il faut travailler, donc il faut faire un effort. Pour un sportif, pour obtenir le premier prix, la coupe, la médaille d'or, et j'en passe, il va falloir faire des efforts. Donc, il y a toujours, dans le cadre de notre humanité, de notre fonctionnement humain, il y a toujours l'idée de mérite. Alors, je voudrais appuyer ce message avec une parabole que Jésus a soulignée et qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. C'est la parabole du fils, donc du fils prodigue. Et il y a finalement là une situation qui nous montre ce qu'est la grâce. Alors, je vais la décrire très simplement, comme si je parlais de quelqu'un, peut-être vous qui m'écoutez, ou de quelqu'un d'autre, et c'est l'histoire d'un fils qui veut son héritage tout de suite. Or, c'est pas seulement une question d'argent, quand on regarde bien, c'est un désir d'autonomie radicale. Je veux vivre sans avoir, papa, à te rendre des comptes. Donc, tu me passes, tu me donnes la part de mon héritage et je te laisse tranquille, je quitte la maison et je sors de ton giron. Ok. Ce garçon s'en va avec la part de son héritage. Il va donc dans une ville assez loin de du domicile de son papa. Et là, c'est le faste, la haute société, les amis, entre guillemets bien sûr, qui ne sont là que pour son argent, le portefeuille, le porte-monnaie. C'est une année brillante, tout fonctionne, c'est merveilleux. Eh bien, ça part dans tous les sens, comme diraient les jeunes. Là, je kiffe ma life. Ça peut faire rire certaines personnes. Je kiffe ma vie. C'est une année formidable. Puis, d'un seul coup, tout s'arrête. C'est le vide. C'est le vide. C'est la chute. Il y a l'arrivée d'une crise économique. Il y a l'arrivée d'une situation climatique non contrôlée, une sécheresse. Et la solitude d'un seul coup qui arrive, mais alors sans crier gare, elle remplace toute cette foule, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça entre guillemets, la foule d'amis qui était présente au départ. L'image forte qui est à souligner, c'est que ce jeune homme, il finalement se trouve là tout simplement dans un endroit froid, l'estomac noué, il n'y a plus rien à manger, même la nourriture pour les cochons et pour un juif, c'est terrible de se retrouver dans une telle situation. Il voudrait bien en manger tellement qu'il a faim, mais il ne veut pas, il se contrôle, et puis en même temps, il se souvient de la chaleur de la maison de son père. Alors il va prendre un chemin qui est différent de celui qu'il avait pris au départ, c'est un chemin de retour. Il ne revient pas, bien sûr, en héros, mais il revient en vaincu. Alors il prépare son discours, et il va dire, à un moment donné à son père, « Je ne mérite plus d'être ton fils, traite-moi comme un employé. » Il va même rajouter, « J'ai péché contre Dieu et contre toi, père. Traite-moi comme un employé. » Et voyez-vous, le trajet qui est fait à pied et qui l'amène vers la maison de son père, le père, lui, tous les jours, il attendait. Tous les jours, quel amour, tous les jours. Et finalement, quand le père le voit au loin, il n'attend pas que son fils arrive sur le perron de la maison. Non, non, la Bible nous dit qu'il va courir vers son fils. Il court, il n'attend pas les excuses. Il va, je dirais, en quelque sorte, les étouffer dans une étreinte d'amour, de compassion, de bonté, celle d'un père. Et finalement, il y a là quelque chose qui se passe, c'est la grâce qui est toujours étonnante. Ça nous parle de Dieu à notre égard. Ça nous parle du Père éternel à notre égard. Il nous aime tellement. Il nous attend. Il vous attend. Et il ne veut faire qu'une seule chose, c'est réduire la distance en courant vers vous. Est-ce que vous allez fuir? Est-ce que vous allez dire non? C'est à vous de voir. Mais voyez-vous, une fois que l'étreinte est là, que le fils va quand même s'exprimer, comme on l'a souligné tout à l'heure, parce qu'il a besoin quand même d'avoir la certitude d'un pardon qui est offert par grâce, et c'est le cas, la fête commence avant même, en quelque sorte, que le fils ait fini de dire tout ce qu'il avait à dire. Oui, cet homme, ce jeune homme était mort par ses offenses et par son péché, comme tant d'hommes et de femmes aujourd'hui. C'est la vérité qui blesse, peut-être ou peut-être pas. Le texte nous dit que nous sommes morts dans nos offenses, pas juste malades, pas juste fébriles, même pas tout juste fatigués, non, mais spirituellement, nous sommes coupés de la source de vie quand on est dans cette situation, comme l'était le fils prodigue au départ, loin de la maison de son père. Vous savez, il y a un piège, c'est celui de la comparaison. On se croit quelqu'un de bien, faut le dire. Parce qu'on se compare aux autres, on se compare aux voisins, on se compare à celui qui a commis des choses horribles et qui sont relatées par les chaînes d'infos en continu. Alors finalement, ça cautérise un petit peu notre conscience, ça nous déculpabilise d'une certaine manière. Mais finalement, la réalité, elle est toujours là, elle nous revient à un moment donné en pleine figure. Donc, il y a ce piège de la comparaison. On peut se croire parfait, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous vous croyez parfait? Posez-vous. Mais si vous vous posez la question, est-ce que je suis parfait? Ou peut-être c'est une affirmation. Vous dites, enfin, plus beau que moi, tu meurs. Finalement, je suis quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Peut-être vous parlez ainsi. Mais si vous êtes marié, posez la question à votre conjoint. Si vous avez des collègues de travail, etc., posez la même question à vos collègues de travail. Si vous avez des enfants, des adolescents ou des enfants qui sont majeurs, plus grands, eh bien, posez-leur la question. Est-ce que je suis parfait à votre avis? Ils auront sans doute une liste peut-être de nuances à apporter. Mais il y a un standard divin, mes amis, chers auditeurs. Dieu ne note pas notre vie sur une courbe. Non, son standard, C'est quoi? C'est la pureté absolue qui découle de l'œuvre de la croix, par le sang précieux de Jésus. Si je crois en Jésus, si j'accepte Jésus comme mon sauveur, il va purifier mon cœur. C'est ça qui est formidable. C'est le miracle de la conversion, du changement de vie, de la nouvelle naissance. Face à cela, ben, nous sommes, sinon tous dans l'impasse du jeune homme de l'histoire. Alors, je vais prendre juste une petite illustration, rapidement. Un adolescent de 15 ans prend la voiture de ses parents. Il rate son virage. Il démolit, je m'adresse à vous, chers auditeurs, il démolit votre murette et votre jardin, un bien qui vous est précieux. Il le démolit. Vous avez finalement trois options face à cela. La première, c'est la justice. C'est-à-dire, vous dites donc à la famille, à cet adolescent, tu payes, on appelle la police, tu assumes. Alors c'est juste, c'est ce que la loi exige. La deuxième option, c'est la miséricorde. Bon, ok, on n'appelle pas la police, mais tu vas devoir travailler pour rembourser. C'est de la bonté, mais la dette reste là. On est d'accord avec cela. Et la troisième option, on y revient, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la grâce. C'est-à-dire, je ne t'envoie pas la police, je répare moi-même ma murette ou mon bien que tu as détruit en ratant ton virage avec le véhicule de tes parents, et je t'invite même à déjeuner pour qu'on discute de ton avenir. Oh, c'est étonnant. Le risque de la grâce, finalement, il est là. C'est le choix le plus cher. La grâce, elle coûte tout à celui qui la donne et rien à celui qui la reçoit. J'insiste, la grâce coûte tout à celui qui la donne et rien à celui qui la reçoit. Permettez-moi de le rajouter une troisième fois. La grâce coûte tout à celui qui la donne, et rien à celui qui la reçoit. L'adolescent pourrait se moquer même de vous après le repas. C'est le risque que Dieu a pris finalement en Jésus-Christ. La grâce, eh bien, c'est l'œuvre de Christ pour notre salut, l'œuvre de Dieu en Christ pour notre salut. C'est un cadeau de Dieu. Dieu prend le risque. Et je vais vers la conclusion. Finalement, pour qu'il en soit ainsi, le risque qui est pris de la part du Père, c'est d'accepter qu'il y ait la crucifixion de son Fils unique, Jésus-Christ. Alors on se pose la question, pourquoi la croix? Moi, j'ai plutôt envie de dire, plutôt, comment la croix? Dieu n'a pas simplement oublié le péché, sinon il n'y aurait plus de justice dans l'univers. La solution de Dieu, c'est ça, il devient lui-même celui qui paie la facture. Comme l'histoire de tout à l'heure. Il prend le risque. C'est pas pourquoi, c'est comment. Il a donné sa vie à la croix. Il a donné sa vie, il a tout accompli. D'ailleurs, il le dit, tout est accompli. Tetelestai en Grèce. En grec, ça veut dire tout est payé, tout est ratifié. C'est formidable. Et voyez-vous, Jésus, nous dit l'Écriture, qui n'a pas connu le péché, est devenu péché pour nous. La justice est satisfaite. Non, pas parce que nous avons payé, non pas parce que nous méritons quelque chose, en ayant fait ceci ou cela, non, mais parce qu'il a payé, ça s'appelle la grâce. Alors, dans ma conclusion, je voudrais rajouter ceci. Il faut lâcher le sac à dos. Un homme marche avec un énorme fardeau. Une charrette s'arrête et lui propose de monter. Et puis le conducteur, donc l'homme qui marchait, bien sûr, il accepte. Il dit d'accord, il monte sur cette charrette et le conducteur de cette charrette se retourne et voit l'homme assis, mais toujours avec son sac lourd sur le dos. Alors le conducteur lui dit, mais monsieur, posez votre sac. Et le passager, il dit, mais non, c'est déjà trop gentil de me porter, je n'ai pas à vous demander de porter mon sac aussi. Alors ça peut vous faire sourire cette petite illustration. Mais malheureusement, c'est l'erreur que commettent beaucoup d'hommes et de femmes, des jeunes, des moins jeunes, et parfois même déjà des croyants, de ceux qui ont déjà accepté Jésus comme sauveur, qui marchent en nouveauté de vie avec Dieu. Accepter le salut par grâce, mais essayer de porter son sac, c'est-à-dire ses culpabilités, ses efforts, ses erreurs, point de suspension, par ses propres forces ensuite. Mais c'est une erreur. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis plus sous la grâce. Je suis toujours, eh bien, sous la condition de la mort à cause du péché, mort spirituelle, séparation d'avec Dieu, déconnecté de Dieu et des bienfaits de Dieu. Mais Jésus, si je l'accepte, si je viens vers lui, si je me mets à son contact, c'est pour lui lâcher mon sac, mon fardeau, ma culpabilité, mes efforts, tout ce qui s'est cumulé et qui me blesse et qui devient lourd dans ma vie. Alors oui, l'appel est simple. C'est le mot de la fin. La grâce est un don du début, un cadeau du début à la fin. Elle ne se mérite pas, elle se reçoit. Faites, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, en ce dimanche, faites demi-tour et rentrez à la maison du Père céleste. Jésus vous y attend, le Père vous y attend, le Saint-Esprit vous y conduit. Alléluia, car c'est lui qui convainc vos cœurs de péché, de justice et de jugement. Je vous souhaite le meilleur en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Il marchait le zèle au cœur, persécutant au nom du Seigneur. Il croyait faire le bien, mais la vérité l'attendait sur le chemin. Saul de Tarse, aveuglé par la gloire, une lumière et tout changea dans l'histoire. La voix du ressuscité venu, il t'a choisi pour annoncer son nom au peuple, au roi l'humanité. Trois jours dans le silence et l'ombre, la vue revient et le feu succombe. Il prêche celui qu'il combattait, Jésus-Christ, le roi, la vérité. Saul de Tarse, devenu Paul envoyé, par la grâce, ton cœur transformé du sang à l'amour, du zèle à la foi. Tu portes à la croix sans jamais faire un pas en soi. De Jérusalem à Rome, tu as semé l'évangile vivant. Comme lui parfois, aveuglé, perdu loin de ta voix, mais par ta lumière, nous sommes relevés pour vivre, pour aimer, pour témoigner.